up.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Pas mécontent de finir la semaine avec vous et Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Et le sport est une forme de culture. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et ses revers liftés, Bertrand Chamerois et ses coups droits. Et puis Eva Roque avec ses petits lobes par-dessus les programmes. Vous l'avez compris, on va parler tennis avec une partie de l'équipe de France Télévisions, pour Roland-Garros, Laurent Luya, le présentateur, Justine Hénin, consultante, ex-numéro 1 mondial qui a gagné 4 fois Roland-Garros, et aussi un nouveau venu parmi les consultants, Julien Beneteau, ex-joueur pro, lui aussi a gagné Roland-Garros, mais en double, c'est vous dire s'il a le sens de l'équipe. Et il en faut avec l'arrivée d'un concurrent, le géant Amazon Prime. Notre infomédia annonce Koh-Lanta, dont c'est ce soir la finale de la 26e saison, avec des très bons scores d'audience qui surprennent même la chaîne. Nous sommes avec sa productrice Alexia Larouche Joubert et une candidate emblématique Maxine. Enfin, le cinéaste Éric Lavenne, après Barbecue, après Retour chez ma mère, il revient avec la suite Un tour chez ma fille, avec les mêmes comédiens Josiane Balasco, Mathilde Seigné et Jérôme Commandeur, plus une idée supplémentaire drôle et sadique, la mère insupportable jouée par Balasco. Et bien vous savez quoi, elle a une mère, Lynn Renaud, elle aussi insupportable. Ça promet. Culture Média, c'est parti. Bonjour Luce Bernard.
Bonjour
Antoine Janton.
Salut Philippe, bonjour à tous.
Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
L'arrestation et la garde à vue d'un journaliste de Paris Match hier, la sortie aujourd'hui du premier numéro du magazine de Faustine Bollaert, et puis dans l'intimité de 4 champions du monde, 4 joueurs de l'équipe de France, à une semaine du début de l'Euro de football. C'est un documentaire à voir sur M6 ce week-end.
Mais d'abord, les audiences avec vous Luce Bernard, qu'ont regardé les Français hier soir.
La suite de la nouvelle série française Luther sur TF1, 3 440 000 téléspectateurs, 17,2%. De part d'audience. C'est en baisse par rapport à la semaine dernière. Et surtout, c'est très faible sur la cible publicitaire, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, 14% seulement. Deuxième, M6 avec la fin de la série Tchernobyl. Les 2 épisodes inédits ont attiré 3 170 000 téléspectateurs, 16,5% de part d'audience. C'est au coude à coude hein, avec TF1, c'est en baisse aussi. Mais très fort sur la cible publicitaire, là, 26,7% sur les FRDA de moins de 50 ans. Troisième du podium, envoyé spécial. 1 860 000 téléspectateurs, 8,9% de part d'audience. C'est un petit score pour l'émission après son record de la semaine dernière. Et puis à noter que TMC, avec une énième rediffusion des visiteurs, attire tout de même 1 million. Oui, un petit peu. 1 370 000 téléspectateurs. Et bien c'est mieux que la soirée cinéma de France 3 qui diffusait Il faut sauver le soldat Ryan. Là aussi, déjà peut-être passé, repassé. Ouais. 1 290 000 téléspectateurs seulement. Et puis sur France 5, les volcans, vous savez, votre infomédia du jour hier, la baie de Naples, la colère des volcans, attire plus d'un million de téléspectateurs, 1 200 000 précisément.
Culture Média.
Le journal des médias avec vous Antoine Janton. À la une, l'arrestation d'un journaliste de Paris Match.
François Delabarre, interpellé hier matin et placé en garde à vue à Nanterre. Il en est sorti en fin de journée hier sans être convoqué chez le juge d'instruction. Selon son avocat, il est soupçonné de subornation de témoins dans l'affaire du possible financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. En cause, une interview de Ziad Takieddine publiée en novembre dernier dans Paris Match. Une interview réalisée avec un photographe de l'agence Best Image dont la patronne Mimi Marchand a également été placée en garde à vue hier. Dans cet entretien, l'homme d'affaires Takieddine retirait les accusations qu'il avait portées contre l'ancien chef de l'État, mais 2 mois plus tard, devant des juges, il disait qu'il ne confirmait pas les propos tenus dans le magazine. Des propos qui, disait-il, avaient été mal tournés par le journaliste.
Et la direction de Paris Match a dénoncé dans cette arrestation une forme d'intimidation.
Oui, c'est ce qu'a dit Constance Benke, la présidente de la Garde Air News, à qui appartient Europe 1. Il faut dire que François Delabarre a été interpellé à 6h du matin, hier, par plusieurs policiers armés sous les yeux de son fils de 8 ans. Une opération aberrante, selon Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, qui a dénoncé, je le cite, un procédé judiciaire déplorable, à l'évidence disproportionné.
Actualité de la presse encore, avec la sortie d'un nouveau magazine aujourd'hui, celui de l'animatrice Faustine Bollaert.
On vous avait révélé sa création dans Culture Média il y a quelques jours. Entre nous, c'est son titre, un bimestriel féminin qui arrive donc en kiosque ce vendredi. Vous ne pourrez pas le manquer, hein, c'est Faustine Bollaert qui est en une, un magazine au ton semblable à celui de l'émission qu'elle anime sur France 2 chaque après-midi. Ça commence aujourd'hui. Optimiste et intimiste, une boîte à outils dans laquelle piocher pour être mieux dans sa vie, dit Faustine Bollaert, qui en est la directrice éditoriale et qui, partant, veut s'y impliquer pleinement.
Je me suis vraiment engagée. Je voulais absolument pas faire un magazine où je mettais juste mon nom ou mon visage sur la couverture sans savoir vraiment de quelle manière je m'étais impliquée. Je me suis impliquée vraiment dans tout, à la fois dans le choix des photos, des couleurs. Et j'ai même insisté pour que le magazine soit saupoudré un petit peu comme ça de regards que je porte sur les sujets, que j'ai choisi également avec la rédaction. J'ai réalisé des interviews moi-même de Marc Lavoine. J'ai été à la rencontre également d'une jeune femme qui est pleine de résilience et qui m'a passionnée. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à ça.
Faustine Bollaert n'est pas la seule animatrice à lancer un magazine autour de son nom et de son visage. On vous en parle régulièrement ici. Le premier a été Michel Simès, suivi par Stéphane Bern, puis Sophie Davant, Stéphane Blazza et bientôt Patrick Sébastien. On vous l'a annoncé en début de semaine. Une tendance que Faustine Bollaert comprend et voit même d'un bon œil.
Je trouve ça, on va dire, logique finalement, parce qu'on crée une vraie complicité et un vrai lien avec le public. Et ça me paraît finalement assez évident et logique de poursuivre ce lien, comme on pourrait le faire, un animateur le fait en radio, là on le fait en presse écrite, c'est une manière de rajouter de la proximité. Je trouve ça finalement assez logique, assez novateur, et oui, bah, je m'y reconnais, si j'ai accepté, c'est que je trouve que c'est formidable pour le public et formidable pour l'animateur, encore une fois.
Entre nous, le magazine de Faustine Bollaert, il est édité par Reworld Media, il est en kiosque à partir d'aujourd'hui avec en une donc l'animatrice et un dossier sur l'hypersensibilité. Ça coûte 3,90€.
Le focus programme du jour à présent, c'est le prochain numéro de Zone Interdite, ce sera après-demain sur M6.
Oui, avec un documentaire exceptionnel dans l'intimité des joueurs de l'équipe de France de football. Les équipes du magazine ont suivi pendant plusieurs mois quatre d'entre eux, quatre joueurs qui vont disputer l'Euro dans quelques jours, une compétition que va diffuser M6. Quatre champions du monde, Hugo Lloris, le capitaine, Luca Hernandez, Presnel Kimpembe et Olivier Giroud qui s'est laissé filmer chez lui avec sa femme et ses enfants. Son frère et sa grand-mère témoignent également. Tous racontent leur parcours et leur vie personnelle, l'importance de l'entourage et la retraite qui approche bientôt pour certains, des confidences qui permettent de mieux comprendre qui sont vraiment ces champions du monde. Ophélie Meunier, présentatrice de Zone Interdite.
On a l'impression un peu de les connaître, ces joueurs-là, et en fait, non. Leurs histoires, leur enfance, leur parcours, leurs épreuves, leur façon de vivre les choses et la façon aussi dont leurs proches vivent les choses, on peut les imaginer au mieux, mais en tout cas, on ne les connaît pas. Je trouve qu'ils se sont ouverts comme j'ai rarement vu. On comprend mieux, je trouve, à travers ces histoires de vie, la raison pour laquelle ils sont tous devenus des grands champions. Ceux qui verront le doc de dimanche, quand ils regarderont le premier match de l'Euro avec l'équipe de France, je suis sûre qu'ils auront un regard un peu différent sur nos quatre persos parce qu'ils auront ces images du film qui défileront dans leur tête et ils auront probablement une affection et une tendresse particulière pour eux, c'est sûr.
Ophélie Meunier, qui s'est rendue par ailleurs à Clairefontaine, le camp de base des Bleus, pour réaliser plusieurs interviews, dont une avec le sélectionneur Didier Deschamps. Zone Interdite, les Bleus à cœur ouvert, c'est diffusé après-demain dimanche à 21h05 sur M6.
La fin d'une émission de télé-réalité après 12 saisons à l'antenne.
Oui, les anges, il n'y aura pas de saison supplémentaire. La photo aux audiences très décevantes et aux récentes polémiques autour de l'émission, des accusations de harcèlement et de sexisme portées contre la production et une bagarre lors du dernier tournage à La Réunion. Pour remplacer l'émission, Énergie 12 mise sur une nouvelle série originale d'après Le Parisien. Une série sur une agence d'influenceurs dont le titre provisoire serait Follower.
De nouveaux départs à Europe 1.
Oui, après Julien Bugier, qui ne sera plus à l'antenne à la rentrée entre 18h et 20h, c'est Anne Roumanoff et Pascal Clark qui vont quitter la station. Leurs émissions ne seront pas reconduites à la rentrée. La direction d'Europe 1 explique qu'elle doit réaménager ses programmes compte tenu, je cite, d'audience et d'un modèle économique très challengé.
Et pour terminer, bataille judiciaire ouverte entre Laurent Ruquier et la productrice Catherine Barma.
L'animateur attaque son ancienne productrice, celle de l'émission On n'est pas couché, qui s'est arrêtée en juillet dernier. L'animateur lui reproche de ne pas lui avoir payé ses dernières semaines d'émission. Il lui réclame 315 891 € précisément, selon le magazine Capital. Il a porté plainte il y a un peu plus d'un mois en avril. Catherine Barma a vite riposté. Elle aussi a porté plainte le mois dernier pour dénoncer la rupture unilatérale, dit-elle, du contrat qui les unissait. Une première décision au tribunal a demandé plus de temps pour analyser le dossier.
Toutes ces infos, vous les retrouvez avec d'autres dans la newsletter Média d'Europe 1. C'est gratuit, inscription sur europe1.fr. Merci Antoine Janton, merci Louise Bernard. Antoine, on vous retrouve la semaine prochaine. Louise, on vous retrouve tout à l'heure pour votre indispensable dans un instant.
Bon week-end.
Notre infomédia du jour, on va parler de télé-réalité. La télé-réalité la plus regardée en France, c'est Koh-Lanta. Ce soir, la grande finale tant attendue. Nous en parlons avec sa productrice Alexia Laroche-Joubert et une des finalistes, c'est Maxine.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Bondel.
C'est l'émission de télé-réalité la plus regardée en France et l'épisode diffusé ce soir devrait le confirmer. Koh-Lanta termine sa 26e saison ce vendredi. C'est la finale des Armes Secrètes, le nom donné à cette nouvelle édition qui se déroule en Polynésie française. Finale qui, comme chaque année, est à la fois enregistrée pour l'épreuve redoutée des poteaux et en direct pour l'ultime vote des candidats qui va désigner la ou le vainqueur de ce jeu qui entre chaque année un peu plus dans la culture populaire. Bonjour Alexandra Roche-Joubert.
Bonjour.
Vous êtes la présidente d'ALP Adventure Line Production, la société qui produit Koh-Lanta. Bonjour Maxine Éhouzan.
Bonjour.
Vous êtes l'une des trois finalistes avec Lucie et Jonathan, trois finalistes à qui Denis Brognard s'adressait vendredi dernier à la toute fin de l'émission.
Vous êtes les trois finalistes. Vous allez vous retrouver sur les poteaux. Vous êtes en train de vivre votre rêve. Profitez-en. Mais vous restez, ne l'oubliez pas, jusqu'à la fin de ce Koh-Lanta, les armes secrètes, des adversaires. Parce qu'à la fin, vous le savez, il n'en restera qu'un. Et ce sera forcément l'un de vous trois.
Il n'en restera qu'un ou une des trois, celui ou celle qui remportera l'épreuve des poteaux. Pour qui ne connaîtrait pas, c'est quoi le principe de l'épreuve des poteaux, Alexia ?
Alors, c'est de tenir le plus longtemps. C'est extrêmement simple, ouais, en fin de compte. Hein.
Je crois que c'est l'épreuve la plus simple, en fait.
C'est l'épreuve la plus simple. Et c'est marrant parce que ce matin, il y avait des orages sur Paris. Et ouais, je me disais que vous avez vécu, et les téléspectateurs vont le découvrir, des grosses intempéries à ce moment-là. Et tenir dans le vent, dans la pluie et dans les bourrasques. Voilà.
Il faut décrire, c'est des poteaux installés dans l'eau. Et on doit rester debout. Vous étiez préparé, Maxine, ou pas ?
À l'épreuve des poteaux, ouais. Non. Honnêtement, je m'étais dit, on fera au feeling. Déjà, c'était pas sûr d'arriver jusque-là, donc déjà énorme quand même pour moi. Mmh. Et puis non, hein, quand on arrive à l'épreuve des poteaux, on se dit, bon bah voilà, il va falloir rester debout et pas bouger.
Non, il y en a beaucoup qui s'entraînent, vous le savez.
Ouais,
parce que ça, c'est
sais.
La seule chose qu'on peut faire de Koh-Lanta dans son salon.
Oui et non, parce que bizarrement, déjà parce qu'il y a quand même un élément qu'on oublie, c'est que vous pouvez pas recréer la mer, l'intempérie et la hauteur des poteaux. Mmh. Parce que ça, c'est une technique très particulière. Et donc, on a beau rester statique sur un espace, c'est quand même très différent. Et puis il ne faut pas oublier que vous avez des concurrents. Oui. En l'occurrence, il y a deux autres concurrents. Et donc vous vous battez contre vous-même et contre les autres aussi.
Vous connaissez le record de l'émission ?
Le record, alors ça dépend parce qu'on a un petit peu changé les règles. Je pense que le record, ça doit être 8 heures.
Moi j'avais 5h16.
Il y a 5h16, mais
Amel,
il y a 8...
à la fin de la deuxième saison.
Oui, mais je crois qu'il y a eu un... Et après, normalement, dans la technique maintenant, c'est plutôt 3h30, des choses comme ça.
Est-ce que votre passé de sportif de haut niveau, vous avez été gymnaste, vous avez été plongeuse, Maxine, c'est bien ça ?
Exactement.
Vous a aidé ?
Forcément, de toute façon, je pense que tout au long de l'aventure Koh-Lanta, ça m'a aidé de par l'équilibre. On a vu que j'étais quand même pas trop mal dans tout ce qui concerne l'équilibre. Après, les poteaux, c'est encore une fois, c'est différent parce que, comme le disait Alexia, déjà Koh-Lanta, c'est pas une compétition normale comme j'ai pu faire. C'est totalement différent. La pression, elle est différente. Voilà, tous les éléments autour, on les maîtrise pas. Il y a la météo qui rentre en compte. Donc, même si, bien évidemment, je pense que j'ai un petit avantage. Franchement, ça ne veut rien dire.
Alors, c'est l'un des éléments les plus connus de Koh-Lanta, cette épreuve des poteaux qui est entrée dans la culture populaire au point qu'elle a été reprise par deux des plus célèbres youtubeurs, McFly et Carlito.
Que d'émotion aujourd'hui pour ce tournage, vous le voyez, vous l'avez vu dans le titre, qui est un simple jeu de mots. J'ai appelé David, j'ai dit l'épreuve des poteaux.
Mais oui.
L'épreuve des poteaux, P-O-T-O-S. Donc on ne sait pas encore si on appelle ça l'épreuve des poteaux, entre poteaux.
Ou poteaux, tout ça, mais vous avez compris, poteaux, tu connais le petit... Voilà, on est là, tac-tac.
On s'est dit, cette épreuve, elle est charmée, les gens la kiffent, nous on la kiffe. Faisons-la. Et on a une équipe de fous, l'équipe que vous connaissez, notre prod et nos techniques.
L'équipe de décoration qui nous ont mis ces poteaux, ça paraît peut-être pas comme ça, mais c'est un taf de malade, ça doit tenir le poids d'un humain. Ça doit être dans le fond qui est sableux, vaseux. Et en plus, vous allez voir, il y a les petites planches qui s'enlèvent.
Exactement, je vous vois venir, on a respecté vraiment à la lettre.
C'est les dimensions officielles Koh-Lanta.
Il y a des dimensions officielles, Alexia ?
Oui, il y a des dimensions officielles, d'ailleurs, qui varient, puisque le principe, c'est qu'on rétrécit l'espace où on pose ses pieds. Non, ce qui est drôle, c'est que personne ne connaît l'histoire, mais d'où vient les poteaux ?
Dites.
En fin de compte, ça vient des flamants roses.
Ah oui ?
Oui, c'est Yann Le Gac.
Qui ont une jambe dans l'eau, ouais.
Oui, c'est Yann Le Gac, qui est le créateur de la plupart des jeux de Koh-Lanta, qui un jour voit des flamants roses qui tiennent sur un pied, et qui se dit, je vais inventer les poteaux.
Incroyable.
Et,
ça fait le tour du monde. Les meilleures idées sont toujours les plus simples.
On est le seul pays à finir systématiquement les saisons par l'épreuve des poteaux. D'autres pays ont d'autres épreuves. Mais c'est vrai qu'elle est iconique de Koh-Lanta.
Comment vous expliquez, si tant est que ça puisse s'expliquer, qu'Alexandre Joubert, que l'émission soit autant ancrée dans la culture populaire et ça ne se dément pas? Normalement, les émissions s'émoussent, vieillissent et celle-ci semble tenir, Koh-Lanta.
Alors, j'ai la chance de produire deux programmes qui tiennent, c'est-à-dire Fort Boyard et Koh-Lanta. Je pense que ça tient principalement aussi... alors, il y a deux choses. Un, la qualité des équipes qui produisent le programme, qui sont un peu les gardiens du temple et qui connaissent à quel moment on peut modifier certaines choses et à quel moment il faut rester dans les éléments fondateurs du programme. Donc ça, je leur rends hommage. Et il y a aussi cette appétence incroyable pour l'évasion. Alors c'est vrai que ça a été renforcé au moment de la période du confinement. Les valeurs qu'on peut regarder en famille, c'est des valeurs de sportivité, de compétition, de ténacité, de courage. Enfin, Maxine...
Il y a ça sur plein d'émissions qui ont disparu de la grille.
Bah, pas tant que ça, en fin de compte. À ce point-là, toi, tu l'as vécu, mais je le dis, mais personne ne peut imaginer la dureté des conditions de vie de Koh-Lanta. Moi, je trouve qu'il y a eu des éléments incroyables de solidarité, enfin, ta relation incroyable, on en parlait juste avant le démarrage de l'émission, avec Laure. Il y a des choses, humainement et en sportivité, qui sont exceptionnelles.
On va parler de l'humain, on va pas donner le résultat. On continue à parler de Koh-Lanta. La finale, c'est ce soir. Nous sommes avec Alexia Laroche-Joubert et Maxine, candidate emblématique. Alexia, c'est la productrice. À tout de suite.
À la fin, il n'en restera qu'un.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Alexia Laroche-Joubert, la présidente d'ALP, c'est la société de production qui produit entre autres Koh-Lanta. La grande finale, c'est ce soir. L'une des candidates, elle peut gagner. Ils sont trois. Dernier finaliste, c'est Maxine. Juste un mot, vous avez un métier dans la vraie vie, vous faites des études. Vous faites des études de quoi ?
Alors j'ai fini les études, je suis journaliste maintenant depuis 4 ans. Je travaille pour Sport en France, le média du CNOSF. Et j'ai une petite émission que j'anime qui s'appelle Génération Jeune avec la génération Paris 2024.
Elle passe où, à la télévision ?
Ouais, tous les mercredis à 19h.
Et aujourd'hui, c'est votre première radio.
Et aujourd'hui, c'est ma première radio. Incroyable.
Alexia, c'est pas votre première radio. J'ai profité de votre faconde pour vous demander de nous expliquer comment va se passer le vote du jury final. Parce que le vote a déjà eu lieu, mais on ne sait pas qui va gagner Koh-Lanta. Racontez le dispositif.
Bah, exactement, en fin de compte, c'est très particulier parce qu'il y a une captation au moment de ce qu'on appelle le conseil final où, comme vous le savez, il y a d'anciens aventuriers qui, eux, vont voter pour élire parmi les deux, celui qui aura gagné le poteau et son adversaire qui l'aura choisi, le grand gagnant de la saison. Et c'est très particulier parce que vous imaginez bien l'importance de la confidentialité. D'ailleurs, personne n'est au courant des résultats, sauf une personne.
Parce qu'il faut dire, le résultat est consigné dans une urne qui va être ouverte ce soir en direct.
Mais vous savez que l'urne est filmée. Donc les votes sont filmés.
Ouais.
Et en fin de compte, c'est la seule fois où il n'y a aucun cadreur. C'est une caméra fixe. Il n'y a qu'une personne qui sait le nom du ou de la gagnante, c'est le producteur du programme, Julien Magne.
Et vous-même, vous ne le savez pas ?
Non.
Maxine, vous serez ce soir en direct. Comment vous vivez cette attente ?
Eh bien, hyper excitée. J'ai hâte. À la fois un peu nostalgique quand même, parce que ça veut dire que c'est la fin de cette très belle aventure. Mais je crois qu'on a tous hâte d'y être.
J'aimerais qu'on parle d'une jeune femme que vous connaissez bien et qu'on connaît bien ici, qui est Hélène Manarino. Elle m'a parlé, Hélène, elle m'a dit « Mais Koh-Lanta, cette saison, c'était une saison de dingue. » Elle m'a raconté ça, j'ai pris les notes d'Hélène parce qu'elle m'a envoyé un texte long comme ça, donc je l'ai un peu résumé. Elle m'a dit « On a fait un groupe WhatsApp avec mes copines, avec mes sœurs. » Elle me dit « Ce qui est génial dans cette saison, c'est que les stratèges sont partis vite et que l'amitié, la loyauté ont triomphé. Et les plus sincères et les plus amicales sont restées. » Avant, il y avait les méchants et les méchantes.
Non, il s'avère que c'est vrai que ça a été une saison qui a été à la fois de sportivité, parce que d'ailleurs les trois qui restent sur les poteaux sont trois grands sportifs, professionnels d'ailleurs, et d'amitié incroyable, on en parlait à l'instant entre Maxine et Laure, et à la fois de jeu qui tient aussi à ce qui a été mis en place avec les armes secrètes, qui était une manière de faire des rebondissements. Et il s'avère que ces armes ont été extrêmement bien jouées pour renverser ce qu'on appelle nous, chez nous, des alliances. Donc c'est une saison avec beaucoup de rebondissements, avec des aventuriers que j'adore. Enfin, on sait tous que Vincent a emporté l'adhésion de tous les téléspectateurs et je trouve ça fantastique. Et en l'occurrence, Hélène, je le dis, j'en profite, parce que Hélène, on est en train, moi j'ai misé sur elle. je trouve que c'est une fille qui a énormément de talent dans sa fraîcheur, la manière dont elle est, dont elle est curieuse, et on sort deux programmes pour TF1 prochainement.
Ouais. Je vous approuve, juste un truc à vous dire, ne nous piquez pas Hélène Manarino. Koh-Lanta sera également très commentée. Vous lisez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Maxine ?
Pas trop. J'avoue que je prends vachement de recul par rapport à ça, parce que voilà, j'ai pas forcément envie de tout lire non plus, et je sais que je fais pas forcément l'unanimité ou du moins auprès des téléspectateurs. Donc voilà, je prends du recul. Moi, tant que ma famille, mes amis et puis les sportifs que je connais bien sont fiers de moi, c'est le principal.
Parce qu'il y a souvent des attaques, mais c'est le lot des réseaux sociaux.
Bah oui.
Et
hein,
en plus, vous n'êtes pas responsable du montage.
Oui, c'est vrai que voilà, faut pas oublier que c'est un jeu, que tout n'est pas montré non plus, mais voilà, c'est pour ça que moi je suis trop contente d'avoir fait cette aventure, et c'est tout ce que je retiens.
Et à la fois, t'es exactement qui tu as été sur l'écran.
Exactement. Mais c'est pour ça, j'ai aucun regret dans cette aventure. J'ai trop kiffé.
Il y en a beaucoup qui oublient que c'est un jeu. Koh-Lanta, donc très commenté encore ce soir sur les réseaux sociaux après l'émission. Il y a des débriefs organisés sur Twitch ou sur YouTube, mais également pendant l'émission. Et l'émission est commentée en direct depuis un peu plus d'un an par les journalistes de SoFoot. Des journalistes qui, au départ, s'intéressaient au foot, qui notent les prestations des participants également, comme on noterait des joueurs de foot après un match. C'est devenu une rubrique du site internet du magazine avec des journalistes dédiés. C'est ce que nous explique son rédacteur en chef, Pierre Maturana.
Il y a un planning qui est prévu là-dessus pour dire comme c'est organisé de façon très impressionnante. Et il y a deux journalistes en général qui alternent sur le live du vendredi soir, donc c'est-à-dire qu'un vendredi sur deux, c'est un journaliste ou l'autre. Et ensuite, il y a deux journalistes qui font les notes. Alors, on a la chance que TF1 nous donne les épisodes un peu en amont, un peu de façon confidentielle, pour qu'on puisse les noter et diffuser les notes juste au coup de sifflet final de l'émission, juste après le conseil.
C'est la 26e saison de Koh-Lanta. Comment sont les audiences, Alexia Laroche-Joubert ?
Oh bah, ça a été un truc incroyable. Elles sont extrêmement bonnes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est à la fois sur ceux qui regardent et ce qu'on appelle, nous, en jargon professionnel, le consolidé. C'est-à-dire qu'on fait des replays qui vont jusqu'à 900 000. C'est monstrueux. C'est plus que la plupart des fictions.
Ouais.
Et c'est le meilleur lancement en ménagère depuis 2007. Le plus grand nombre de téléspectateurs depuis 2017. Et c'est le record absolu auprès des 15-34 depuis 2001. Donc c'est vraiment, ça a été une saison qui a emporté l'adhésion, et surtout qui nous permet aussi de reséduire un public jeune qui est revenu regarder Koh-Lanta.
Toutefois,
c'est un public volatile, c'est pas simple.
Toutefois, et c'est peut-être un peu nouveau, vous étiez battu par France 2, notamment par le capitaine Marlowe.
Oui, alors c'est vrai qu'on a été battu. Il faut comparer ce qui est comparable sur une première partie de programme, mais dans l'absolu, c'est nous qui l'avons battu. Donc c'est ça qui est compliqué. Et après, il s'avère que Marlowe a baissé, et donc on les a battus.
Et vous êtes remonté.
Voilà. Il y a eu un effet de curiosité assez fort sur Marlowe, c'est vrai.
Hélène Manarino, si elle nous écoute, va être furieuse en entendant ça. Le Parisien consacre ce matin un long papier à la saison qui vient de se terminer. Article dont le titre est « Pas terrible cette saison, non ». Que répondez-vous aux Parisiens ? Ils reprochent des candidats trop lisses et trop d'armes secrètes.
Oh. Ouais, alors c'est comme
Maxime,
ce qui est fantastique, c'est qu'ils savent plus comment écrire leur papier aux Parisiens, et que voilà, le buzz tient aussi à la critique. On en parlait en deux secondes sur les réseaux sociaux, et c'est d'ailleurs dommage. Il s'avère que heureusement il y a l'adhésion du public, qu'on en parle, et que c'est vrai que les armes secrètes ont déclenché beaucoup de réactions, et particulièrement le bracelet noir qui, j'avoue, a très bien marché, mais qui a éliminé le chouchou de la saison qui était Vincent, et donc automatiquement on a attribué au bracelet noir beaucoup de critiques. Mais néanmoins, il a été extrêmement bien joué, d'autant plus pour vous sauver, Maxime.
Ah bah moi je l'ai bien aimé, ce petit bracelet noir.
Moi, je ne l'ai pas. Koh-Lanta sera là la saison prochaine.
Ouais, moi, je reviens de Polynésie là, avec une saison pour les 20 ans exceptionnelle.
Et il y aura aussi un jeu vidéo.
Oui, on est en train de préparer en effet un jeu vidéo.
Voilà, on est une émission multimédia, fallait-il le rappeler. Merci beaucoup Maxine pour cette première radio de votre vie. Vous êtes l'une des trois finalistes de Koh-Lanta avec Lucie et Jonathan. On va vous voir ce soir, Alexia Laroche-Joubert. On va pas vous voir, mais les cadreurs vont vous entendre dans les casques. La finale de Koh-Lanta, c'est ce soir. Culture Média continue dans un instant. Place au tennis avec le journaliste phare de France Télé pour le tennis et Laurent Luyat. Les consultants sportifs et ex-joueurs pro, Julien Bento et Justine Hénin. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Laurent Luyat.
Non, à France Télé.
Bonjour Laurent Luyat.
Bonjour Philippe.
Ah, vous m'entendez, vous disiez non à France Télé, j'espère que c'était la fin d'une phrase et que vous ne disiez pas non à France Télévisions. Vous êtes journaliste sportif emblématique de France Télévisions, ça fait 21 ans que vous êtes là. Avec vous dans le studio, je vous vois à distance depuis Roland-Garros, Justine Hénin. Bonjour Justine.
Bonjour, bonjour à tous.
Consultante depuis 3 ans pour France Télé, ancienne joueuse pro, vous avez remporté 4 fois Roland-Garros et vous avez également été numéro 1 mondial. Bonjour Julien Beneteau.
Bonjour.
Ancien pro du tennis, votre meilleur classement, c'est 25e mondial, mais surtout votre meilleure performance à Roland-Garros, vainqueur, mais pas tout seul.
Non, effectivement, avec Édouard Roger Vasselin, en double en 2014.
En double, ça veut dire que vous avez le sens du travail d'équipe. Aux côtés de Justine Hénin, de Marie Pierce, Michael Liodra, Sébastien Grosjean, vous êtes le petit dernier dans l'équipe de consultants de France Télévisions. Comment se passe cette première semaine? En fait, je pose la question, mais vous allez me dire que ça se passe très bien, donc je vais la poser différemment. Est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est plus difficile que ce que vous imaginiez avant de commencer, Julien Beneteau?
Alors, je m'imaginais que c'était plus facile, dans le sens où, en fait, le rythme des journées est différent, parce que on voit à la télé les matchs qui sont commentés, et puis on voit un petit peu Laurent en terrasse, et puis ça repart en cabine. Mmh. Et en fait, nous, en tant que consultants, eh ben, on est soit effectivement en cabine pour commenter, ou alors en terrasse justement pour parler de tout ce qui se passe autour sur les autres terrains. Donc effectivement, le rythme est assez élevé, surtout en première semaine où les matchs commencent dès 11h et puis finissent tard le soir. Mais en tout cas, c'est passionnant et surtout, j'ai été super bien accueilli par tous les consultants et l'équipe de France Télé. Donc pour l'instant, c'est vraiment un réel plaisir.
Laurent Luyat, la question qu'on pose tous les ans, parce que chaque année, il y a des nouveautés et c'est bien normal. Quelle nouveauté dans le dispositif de France Télévisions en 2021? En dehors même des difficultés causées par la crise du Covid.
Oui, alors déjà, la grande nouveauté, c'est que à nouveau, on diffuse le Roland-Garros à partir de 11h du matin. C'est très important parce que jusqu'à présent, c'était 15h. On était un peu frustrés quand même de démarrer assez tard dans l'après-midi. Donc, dès 11h du matin, les premières balles sur France 4, ensuite sur France 2. Donc, on diffuse plus de tennis cette année. On partage un petit peu les droits. Bon, ce qui complique aussi là un petit peu la
situation. On va en parler.
Oui, j'imagine. Mais ce que je voudrais dire quand même, Philippe, c'est que cette année, vous qui vous intéressez aux audiences, d'habitude, les téléspectateurs, en fait, attendent un petit peu quelques jours avant de s'immerger dans Roland-Garros et vraiment de s'y intéresser. Là, ils s'y sont intéressés tout de suite.
Ah oui.
Dès le lundi. Mais oui, parce qu'on fait des audiences qu'on n'avait plus faites depuis 2010, ce qui est quand même énorme. Hein. Ça fait 11 ans en part de marché l'après-midi sur France 2. Donc, dès lundi, ça a décollé en fait tout de suite. Hier, on fait encore un pic à 2 millions de téléspectateurs sur le match de Roger Federer. Plus 400 000 hier après-midi sur France 2 par rapport au jeudi de l'année dernière. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une réelle satisfaction.
Alors maintenant, le motif d'insatisfaction, c'est une première dans l'histoire. Aucun Français présent au troisième tour, aucune Française non plus. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on dit que pour faire de bons chiffres en deuxième semaine, il faut des Français.
Ah oui, c'est vrai qu'on va être un peu pénalisé par rapport à ça. On va pas s'en cacher. Après, on a vraiment encore nos trois cas d'or. On peut avoir un quart de finale entre Djokovic et Federer, une demi-finale Nadal-Djokovic. Après, il y a les outsiders dans l'autre partie de tableau. Bon, voilà, on a encore de très très grands moments à vivre.
Quelle nouveauté? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a l'application France TV Sport. Qu'est-ce qu'on va voir de nouveau qui n'existait pas auparavant?
Justine. Non, mais c'est vrai qu'on est habitué maintenant, ça fait plus de 30 ans, 33 ans qu'on diffuse ce tournoi de Roland-Garros, des nouveautés. Bah, par exemple, c'est vrai que vous parlez du numérique, par exemple, les téléspectateurs peuvent suivre tous les matchs sur tous les courts. Si, par exemple, nous, on est sur Nadal et qu'il y a un autre match sur le Langlen ou sur le court 14 avec un joueur qui intéresse ou une joueuse qui intéresse les téléspectateurs, ils peuvent le suivre en intégralité, commenté sur notre application France.tv. Donc ça c'est bien.
Trois grosses têtes d'affiche chez les garçons, Djokovic, Federer, Nadal. Justine Hénin, qui sont les têtes d'affiche chez les femmes?
Ouais, c'est un tableau féminin qui a beaucoup souffert cette année, évidemment. On parlera sans doute du retrait de Naomi Osaka. Il y a eu beaucoup de blessures, de défaites en début de tournoi. Roland-Garros, c'est un tournoi surtout dans le tableau féminin où on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses. C'est pas la surface, la terre battue qu'un maximum de filles maîtrisent. Et donc aujourd'hui, il y en a quand même une qui ressort du lot. C'est Iga Swiatek, la vainqueur de l'édition passée. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on attend qu'une tenante du titre puisse défendre son titre, et elle est pleine de fraîcheur, de spontanéité. Elle est bien dans ce tournoi. Puis il y aura d'autres filles à surveiller. Serena Williams est toujours là, quand même, je le rappelle. Mmh. C'est quand même extraordinaire.
On l'a vu.
À 40 ans. Et il y aura des outsiders. Donc, il y a Sofia Kenin, évidemment, qui est là. Il y a Azarenka, il y a Sabalenka. Il y a encore beaucoup de filles qui peuvent aller chercher ici une victoire en Grand Chelem. Donc, ça va être intéressant.
Vous savez, Philippe, que depuis 2007, depuis Justine Hénin, justement, aucune joueuse n'a conservé son titre
je
à
sais.
Roland-Garros.
C'est pour ça que j'en parle. C'est que, justement, on peut pas s'attacher comme avec les garçons. C'est pas un reproche que je fais, c'est un constat.
Non, mais je le prends pas comme un reproche. Je suis parfois très dure vis-à-vis du tennis féminin, mais beaucoup plus positive quand même depuis 2 ans, parce que je trouve quand même qu'il y a une densité de joueuses, il y a une stabilité qui est en train de se trouver à nouveau. Alors ici, il y a eu des circonstances malheureuses. Il y a la numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, qui doit abandonner hier. Il y a des défaites précoces. Il y a le cas de Naomi Osaka. Ouais. Mais je pense quand même qu'on est dans un tennis féminin qui retrouve beaucoup d'attractivité. Et moi, je suis extrêmement confiante pour les années à venir quand même.
On va parler de Naomi Osaka, on va parler du nouvel arrivant sur les droits télévisés de Roland-Garros. Toute l'équipe de France Télé est avec nous. Laurent Luyat, Julien Beneteau, Justine Hénin. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de Roland-Garros avec la couverture et l'équipe de choc de France Télévisions, le journaliste présentateur Laurent Luyat, les consultants et consultantes Justine Hénin, ancienne numéro 1 mondiale, et Julien Beneteau, nouveau venu dans cette équipe. Il y a une grande nouveauté cette année à la télévision, l'arrivée d'un deuxième diffuseur, Amazon Prime Video, le géant américain. France Télévisions n'est donc plus seule à diffuser les matchs. Comment l'avez-vous vécu, Laurent Luyat ?
Bah, c'est vrai que c'est un peu ennuyeux par certains côtés, parce que ça nous prive de bons matchs. Hier, on n'a pas pu diffuser le match entre Nadal et Gasquet. Ce soir, Tsitsipas-Isner. Si vous voulez, par exemple, je vous parlais il y a un instant du quart final, s'il a lieu entre Roger Federer et Novak Djokovic. Ce serait... moi, je prêche pour ma paroisse, évidemment. Et eux, forcément, ils demandent les meilleurs matchs, c'est normal. Il y a eu un appel d'offres, ils ont répondu, ils ont gagné. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que les téléspectateurs, les Français, ne comprendraient pas qu'un Djokovic-Federer ne soit pas sur le service public, sur une chaîne gratuite. Ce serait absolument aberrant. Voilà, donc il y a ce cas de figure. De la même manière, sur le cours Simone Mathieu, on ne peut pas montrer une image. Quand il y a des Français, c'est un peu ennuyeux. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
Vous n'avez même pas le droit de montrer une image.
Ah, sur le cours Simone Mathieu, non. Non, non.
C'est Bertrand Chameroy de notre équipe qui a remarqué ça, Laurent Luyat. Chaque fois que vous le pouvez, vous en profitez à l'antenne pour faire la promo des matchs diffusés sur le service public. Exemple, c'était dimanche soir sur France 3.
Et donc en prime time, c'est le match du soir, le match de Nice Session. Il est sur France Télévisions ce soir entre Stefanos Tsitsipas et Jérémy Chardif.
Rebelote lundi, vous rappelez que l'événement, c'est sur France Télé.
Quel ancien numéro 1 mondial fait son grand retour à Roland-Garros? 1. Roger Federer, 2. Andy Murray. Je peux même vous dire qu'il jouera demain sur le court Philippe Chatrier en numéro 3. Ce sera sur France 2, ça aussi, je vous l'assure, ce ne sera pas ailleurs.
Et nulle part ailleurs, ça me rappelle des souvenirs. Vous en profitez pour marquer le coup. Est-ce que c'est une consigne de Laurent-Éric Lelay, le patron des sports de France Télé?
Non, non, pas du tout. Très franchement, pas du tout. Je pense pas qu'ils doivent être mécontents de ce que je dis.
Évidemment.
Mais je le fais aussi pour les téléspectateurs qui nous sont fidèles, qui sont passionnés par ce tournoi de Roland-Garros, qui ne sont pas habitués à ce qu'il y ait un autre diffuseur. Donc voilà, je leur dis, c'est vrai que c'est chez nous et c'est accessible à tout le monde.
Et alors, je l'ai dit, c'est un match. Parfois, c'est France Télévisions qui a le point. Parfois, c'est Amazon qui a le point. En l'occurrence, Amazon qui a les droits de diffusion, notamment pour les matchs du soir. Et là, comment dire, Laurent Luyat, on vous sent un peu contrarié.
Il y a Benoît Paire également qui est sur le cours Simone Mathieu. Vous le savez, on ne peut pas vous montrer d'image.
Il était 14h02, 6 minutes plus tard, 14h08. Vous n'êtes plus seulement contrarié, vous êtes énervé.
Alors ne nous demandez pas, je vous le dis, vous le répète, on ne peut pas montrer d'image du cours Simone Mathieu. Voilà, ce sont les nouveaux droits, on va dire, télé cette année.
Là, vous expliquez la cuisine à l'antenne. Qui décide de l'affiche qui est programmée à 21h? Est-ce que c'est Amazon? Est-ce que c'est l'organisateur du tournoi? Autrement dit, la Fédération Française de Tennis,
ouais,
décide?
C'est l'organisateur. Oui, bien sûr, c'est la Fédération Française de Tennis. Amazon fait sa demande, France Télévisions fait sa demande, et ensuite, l'organisateur tranche.
Ils essaient de prendre le meilleur match, évidemment, et c'est bien compréhensible. Amazon a de nouveaux consultants, je vais les citer, Amélie Mauresmo, Marion Bartoli, Fabrice Santoro, Arnaud Di Pasquale, Sergi Bourira, et surtout, Arnaud Clément qui est également vice-président du haut niveau à la Fédération Française de Tennis. Est-ce que là, il n'y a pas un conflit d'intérêts?
Je pense quand même que ces joueurs-là, ces anciens joueurs-là et consultants savent faire la part des choses.
Ouais.
Très, très franchement, ce sont des professionnels. Pour moi, je pense que ça ne joue pas. Franchement, ça serait pas normal. Vous voyez, ce serait un conflit d'intérêts sinon.
Ça serait pas normal. Et je peux prédire que la polémique va enfler puisqu'il y a beaucoup de matchs. Pardon, allez-y.
Nous avons aussi la chance d'avoir les deux capitaines des équipes de France, Julien Beneteau et Sébastien Grosjean. Voilà, c'est la même chose. Ils sont consultants France Télévisions. Ils vont pas intervenir pour essayer auprès de la fédération pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre.
Ah, vous lancez un bon sujet. Julien Beneteau, est-ce que parfois vous lancez ce sujet avec votre collègue Arnaud Clément?
Non, pas du tout.
Est-ce que vous lui dites « laisse-nous des matchs »
Ah non, pas du tout, on parle pas du tout de ça. En plus, Arnaud Clément, je l'ai croisé deux fois dans les allées comme ça depuis le début du tournoi. Non, on parle pas du tout de cette programmation. Ça existe, c'est une double billetterie, une double session, ça existe dans beaucoup de tournois du Grand Chelem. C'est nouveau en France, donc il faut que les téléspectateurs s'habituent à ça. La seule différence avec les autres pays comme l'US Open ou l'Open d'Australie, c'est que c'est sur deux diffuseurs différents, alors que dans les autres tournois du Grand Chelem, c'est le même diffuseur qui a l'intégralité des matchs. Donc voilà, ça a été fait comme ça par la fédération. Les lots ont été découpés, les appels d'offres ont été faits. Maintenant, il faut essayer de trouver le bon équilibre entre les gros matchs sur le Philippe Châtrier en journée et puis forcément une belle affiche. Mais Laurent, tout à l'heure, on a parlé. Ce qui est très important cette année dans la nouveauté et ce qui est redevenu, c'est que France Télé prend l'antenne à 11h et que pour moi, en tant que capitaine, là c'est mon rôle de capitaine dont je parle, Roland-Garros c'est vraiment la vitrine du tennis français et ça doit faire rayonner le tennis et ça doit donner envie aux enfants d'aller jouer au tennis. Et ça, pour ça, il faut que ce soit visible par le plus grand nombre dès le début à 11h du matin.
Et je précise, si vous m'arrêtez si je me trompe, que les demi-finales et la finale sont diffusées conjointement sur Amazon et sur France Télévisions.
Tout à fait.
On va rien rater du final splendide. Polémique, Justine Hénin en parlait, polémique autour du retrait de Naomi Osaka. Je résume pour qui n'aurait pas suivi. Naomi Osaka, c'est la numéro 2 mondiale, victorieuse des deux derniers tournois du Grand Chelem. Et à Roland-Garros, elle a refusé de se prêter à l'exercice des conférences de presse d'après-match, au passage sans en informer au préalable les organisateurs. Après sa victoire lors du premier tour, elle a gagné, elle ne s'est pas présentée devant les journalistes, ce qui lui a valu une amende de 15 000 $. Et comme elle était sous le coup de la menace d'être exclue des 4 grands tournois du Grand Chelem en cas de récidive, elle a carrément abandonné le tournoi en indiquant qu'elle était dépressive et, je la cite, qu'elle souhaitait protéger sa santé mentale. Justine Hénin, j'aimerais bien avoir votre réaction, qu'en pensez-vous ?
Ouais, je pense que c'est une situation qui nécessite de la nuance, comme souvent. Mais c'est un personnage complexe, Naomi Osaka. Moi, je la connais pas personnellement, mais je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses. Je crois que la forme ici était vraiment incompréhensible pour tout le monde. Je pense pas non plus qu'elle porte le message d'une majorité de joueurs. Je crois qu'on s'est toujours tous prêtés à l'exercice.
Oui, ça fait
c'est pas
partie.
Toujours le, c'est pas le plus marrant. Elle est en conférence de presse après une défaite, mais ça fait partie de notre métier. Ce sont les médias qui apportent la visibilité. C'est grâce à ça qu'on peut en vivre aussi. Et donc ça
bien
se
sûr.
Respecte. Maintenant, que ça ouvre un débat sur peut-être comment on pourrait réaménager certaines choses pour que ce soit plus qualitatif, plus on peut rester créatif. Donc à partir du moment où il y a de la discussion, du débat, je trouve ça intéressant. Mais là, elle a fermé la porte. Moi, je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses. Il y a de la fragilité en Naomi Osaka, ça c'est certain. Et puis, elle se sent pas bien sur terre battue. Et, elle n'a pas spécialement été bien conseillée quand même.
Très rapidement, il nous reste 30 secondes. J'aurais la même question posée à Julien Beneteau, car vous êtes l'entraîneur de l'équipe de France féminine. Que vous avez amené d'ailleurs à la victoire en Fed Cup. Est-ce que vous comprenez Naomi Osaka, Julien Beneteau ? Ça sera le mot de la fin très rapidement.
Oui et non, il faut de la nuance. Moi, je pense qu'il faut l'aider. Il faut que les instances du tennis international l'aident à revenir en conférence de presse et à faire en sorte qu'elle se sente bien dans cet exercice, car on ne peut pas se substituer à cet exercice. Comme l'a dit Justine, sans les droits télé, sans les médias, qu'auraient fait les joueurs et les tournois pendant cette pandémie. Donc voilà, il faut trouver le soutien et l'aide dont Naomi Osaka a besoin, mais pas pour qu'elle n'aille plus en conférence de presse, mais pour qu'elle s'y sente bien.
Merci beaucoup Laurent Luya, merci Justine
Hénin,
merci Julien Beneteau. Roland Garros, c'est tous les jours sur France Télévisions, en linéaire, en replay, sur le site avec les applis et sur Europe 1 également, radio officielle de Roland Garros. Nous devions y être ce matin, mais on a dû y renoncer. Il y a eu un énorme orage, le mot est faible, ce matin à Paris, les conditions techniques dantesques. Merci d'avoir été là avec nous en direct. Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un doc sur la plus grande star du basket et Bertrand Chamerois pour un écran de veille renversant. Notre invité, c'est le réalisateur Éric Lavenne. Après le succès des films Barbecue et Retour chez ma mère, il sort Un tour chez ma fille. Et puis dans Les Indispensables, une célèbre mèche blonde de retour et une expo de pierres précieuses. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.